ensemble, rêve d'un monde, monde nouveau.
Merci à Derok Mwamba et Eradi qui assurent la régie pour cette émission. Voici mon problème, chers auditeurs, auditrices de la fréquence maternelle, les fidèles de cette émission. Voici mon problème. Bonjour à tous et bienvenue donc à ce nouveau numéro de cette émission. Bonjour papa André Tandala.
Bonjour maman Régine et bonjour à tous nos chers auditeurs.
Crise dans la vie des couples comme opportunité de croissance. Pourquoi ce thème papa André?
Parce que le couple, c'est finalement le début en tant que tel, c'est le socle de la famille qui est la cellule de base de la société, de l'humanité et donc de l'Église. Donc parler de la crise dans la vie des couples comme une opportunité de croissance, c'est une façon aussi de dire aux uns aux autres, faites attention parce que l'événement que vous vivez n'est pas une fatalité, c'est aussi une occasion de grandir et de vous développer sur tous les plans, notamment psychologique et même spirituel.
Merci beaucoup. On a tous compris le pourquoi de ces thèmes de la crise dans la vie du couple comme opportunité de croissance. Vous avez la parole pour l'exposer.
Merci beaucoup. Alors, le terme de crise est courant dans notre vie quotidienne et se retrouve presque dans tous les domaines économiques, sociaux, politiques, de relations interpersonnelles, etc. Dans tous ces domaines, une crise désigne une situation difficile pouvant avoir des conséquences fâcheuses, irréversibles. Ainsi, par exemple, une crise de maladie peut entraîner la mort. Une société en crise est une société, somme toute, qui ne se développe pas. Une entreprise en crise peut tomber en faillite. Une crise diplomatique peut aboutir à un conflit armé. Un couple en crise risque de divorcer, et ainsi de suite. Voilà pourquoi, dans l'imaginaire collectif, ce terme a presque toujours une connotation négative. Alors, qu'en est-il de la psychologie? Qu'est-ce qu'une crise en psychologie? Eh bien, en psychologie, une crise désigne dans la vie d'un individu ou d'un groupe un temps où l'on est confronté à des difficultés internes ou externes majeures pouvant, si elle est mal gérée, causer une régression ou une désintégration, ou au contraire, dans le cas où elle est bien gérée, déclencher le développement. Pour cette raison, on parle d'une personne ou d'un groupe en crise lorsqu'on traverse un temps de recherche et de redéfinition de son identité et de ses repères. Il s'agit d'un temps transitionnel pendant lequel l'individu ou le groupe doit franchir un stade dans le processus de sa maturation. On doit abandonner certains repères au profit d'autres repères. Sortir de son monde habituel au profit d'un nouveau monde qui reste à découvrir. Dans le meilleur des cas de figure, une crise est censée se résoudre par une acquisition d'un degré majeur de maturité, synonyme donc de croissance. Sinon, elle se conclut par une régression ou une fixation, c'est-à-dire un manque de croissance. Étant donné cela, une crise n'est pas en psychologie quelque chose de négatif a priori, car elle constitue un moment charnière, une voie obligée pour la maturation de l'individu ou du groupe. Par conséquent, au lieu d'être une raison d'inquiétude, toute crise devrait être comprise comme une opportunité de franchir une étape et de grandir. En fait, il est établi que dans le développement de la personnalité, il ne peut y avoir de passage d'une étape à une autre sans crise. Ainsi, par exemple, dans l'acquisition de son autonomie vis-à-vis de sa mère, l'enfant de 2 à 3 ans doit passer par une crise appelée la crise d'opposition. C'est cette dernière qui va déclencher le fameux complexe d'Œdipe, qui est une période cruciale dans la formation de sa personnalité. Bref, il n'y a pas de maturité psychologique qui s'acquiert sans crise. De là l'importance de se poser la question suivante. S'il en est ainsi, alors, quelles sont les différentes crises que nous sommes censés affronter durant notre développement psychologique de la naissance à la vieillesse? Voici une réponse à cette question. Il semblerait que, de la naissance à la vieillesse, nous sommes censés connaître 8 crises psychologiques majeures. Cela fait autant de moments charnières de notre croissance psycho-affective. Dans ce thème, nous nous intéressons seulement à des crises relatives à l'âge adulte, l'âge qui est concerné par le mariage. Alors, s'agissant de l'âge adulte, il faut noter que celui-ci commence généralement vers l'âge des 18-20 ans et se subdivise en 3 tranches. Des 18-20 ans jusqu'à environ 35 ans, c'est le jeune âge adulte. De 30-35 ans jusqu'à 55-60 ans plus ou moins, l'âge adulte moyen. Et enfin, au-delà de 60 ans, l'âge adulte tardif. Pour notre causerie d'aujourd'hui, nous allons nous focaliser essentiellement sur les éventuels facteurs de crise au sein de la vie des couples, ainsi que de la manière dont s'exprime une telle crise. Alors, quelles peuvent être les raisons d'une crise dans la vie d'un couple? Voici quelques raisons. Il y en a beaucoup, vous pouvez ajouter. Voici ce que nous vous proposons. Première raison, différence de caractère entre les conjoints. À chacun son caractère et à chaque caractère, ses potentialités et ses limites. Je ne dis pas ses défauts, mais ses limites. Ce faisant, il ne serait pas étonnant que les conjoints ayant des traits de caractère opposés connaissent des difficultés à cause de cette différence. Ces difficultés peuvent être telles que les limites de l'un sont considérées par l'autre comme des défauts à combattre. Voici quelques exemples classiques. Un couple d'un introverti avec un extraverti est un couple prédisposé à des oppositions assez significatives. Avec sa tendance à la solitude, la discrétion, peu de mouvement, la sobriété de parole, à comprendre tout à demi-mot, eh bien l'introverti risque d'être un fardeau pour l'extraverti qui, lui, est naturellement porté à l'exubérance, n'est-ce pas, l'expressivité, l'action, la convivialité, etc., etc. Et donc, l'extraverti risque d'être un fardeau pour l'introverti et l'introverti un fardeau pour l'extraverti. Il en serait de même pour un mariage entre deux colériques qui sont par définition des véhéments très énergétiques, agressifs, arrogants et intolérants. Dans un cas pareil, on peut avoir affaire à une relation toxique. Un couple incendiaire, bagarre tous les matins et réconciliation tous les soirs, puisque l'une des caractéristiques du tempérament colérique, c'est l'absence de rancune et la brièveté des émotions pourtant impétueuses. Donc, des grandes émotions, vives émotions, mais de courte durée et sans rancune. Voilà. Donc, on se chamaille tous les soirs, tous les matins et le soir. Je t'aime mon amour, je t'aime ma chérie. Voilà. Un couple de narcissistes, c'est-à-dire deux personnes avec une idée excessivement haute d'elles-mêmes et sans empathie, sans compassion. Ou bien un couple de paranoïaques, donc deux personnes foncièrement portées au soupçon de malveillance et à la méfiance dans les relations. Ou pire, un couple entre un narcissiste et un paranoïaque. Ça va faire très mal. Donc, si on ne fait pas très attention, la différence de caractère peut être un facteur de conflit, un facteur de crise au sein d'un couple. Deuxième raison, le poids de la culture. Malgré nos diplômes d'université d'interculturalité dus à l'urbanisme, Nous restons pour beaucoup de choses un produit de notre culture. Que de foyers souffrant à cause de l'influence de la culture sur la vie des couples. Que de cœurs brisés, d'amour trahi et bafoué, des familles déchirées à cause du poids de la culture. Que des femmes humiliées, déshonorées et les hommes dans une moindre mesure au nom de la culture. Il y a des tribus et des ethnies pour lesquelles l'appartenance à l'ethnie de l'homme est une condition nécessaire pour qu'une femme soit considérée par la famille du mari comme l'épouse légitime. Donc, pour votre famille, aussi longtemps que vous n'avez pas une femme de chez vous, vous n'êtes pas encore marié. Et la femme que vous avez là, la femme que vous avez actuellement, est comme une parenthèse destinée à se fermer tôt ou tard, parce que vous devez vous marier à une femme de chez vous. Alors, combien de femmes sont-elles obligées de s'occuper presque seules de leurs enfants, puisque le mari doit avant tout s'occuper des enfants de sa sœur, de ses sœurs? Mes neveux ont la priorité sur mes enfants au nom de ma culture. Autre raison, l'incompatibilité des valeurs fondamentales de la vie. Lorsque l'un des conjoints adhère à d'autres croyances que celles qui unissaient jadis le couple, cela peut être un facteur déterminant d'une crise. On s'est connu très jeune dans les mouvements de Bilenge Amunda ou de Légion de Marie, par exemple. Et c'est dans cette foi catholique qu'on s'est marié. Mais après des années de mariage, l'un des conjoints a adhéré à d'autres croyances qui n'ont rien à voir avec la foi chrétienne authentique. Et voilà la vie du couple qui est mise à rude épreuve. Autre raison, les véritables raisons pour lesquelles on s'est marié. Eh bien, ici, il faut dire que beaucoup de témoignages font état des mariages qui ont été contractés pour des raisons autres que l'amour du conjoint. On parle notamment des raisons financières, intérêts professionnels, appartenance raciale ou ethnique, beauté physique, positionnement politique, ainsi de suite. Lorsque la raison pour laquelle on s'est marié n'existe plus, il est clair qu'une crise peut s'en suivre et faire voler en éclats le peu de choses qu'on avait en commun. Lorsqu'on s'est marié, l'homme était au chômage et c'est la femme qui tenait toute la famille pendant de longues années. Et pendant tout ce temps, l'homme était un mari fidèle et un père affectueux et responsable. Mais depuis qu'il a eu un travail et qu'il gagne beaucoup d'argent, le monsieur est devenu méconnaissable, tout autre. Et c'est la crise au sein du couple. Autre raison. Des psychopathologies plus ou moins ignorées. Certaines psychopathologies se manifestent par ce qu'on qualifie couramment des vices, sont des vices. On peut citer mensonges à répétition, l'homme qui ment comme il respire, une femme qui ment comme elle respire, dépendance à l'alcool, paresse et irresponsabilité, incapacité à bien tenir la maison, impulsivité, hostilité envers la belle famille, instabilité de l'humeur s'exprimant par des comportements imprévisibles et étranges, dépendance pathologique au sexe qui fait qu'on mène une vie de don Juan. Voilà. Une autre raison à ne pas négliger, certaines insatisfactions affectives. Beaucoup de témoignages et de recherches montrent qu'il n'est pas difficile d'être frustré au sein du couple. Il est vrai qu'avec le temps, il n'est pas toujours facile d'avoir le romantisme qu'on avait au début de la relation. Avec le temps, le sens de responsabilité et d'engagement devient prépondérant par rapport à l'aspect sentimental et émotionnel de la relation. Cependant, on ne devrait pas oublier que dans la vie du couple, lorsque l'amour est dénué d'un minimum de sentiments amoureux, on risque de se comporter comme des collègues ou des simples partenaires dans une entreprise. Entre époux, on ne devrait pas se contenter seulement d'assumer ses responsabilités économiques ou ménagères. Encore faut-il être inventif pour attiser sans cesse la flamme de l'amour. Malgré l'âge, malgré les années passées ensemble, il faut s'efforcer de garder un certain romantisme, notamment dans l'hygiène corporelle, dans le langage, le sens de l'humour, l'intérêt qu'on porte au goût de l'autre, le désir de rire ensemble, manger ensemble, se promener ensemble, voir un film, un programme télévisé ensemble, prendre un jus de fruits ensemble, etc., etc. Il est vrai que la beauté physique est une question d'âge, mais il est tout aussi vrai que chaque âge a son charme. Il faut donc veiller à ce qu'on soit charmant selon son âge, pour se faire plaisir certes, mais aussi pour plaire à son conjoint. On devrait éviter d'être une femme qui se fait belle seulement lorsqu'on doit sortir. Un homme ne devrait pas oublier qu'on peut garder sa barbe sans que celle-ci paraisse d'un caractère idéologique. La barbe, c'est beau, mais ça se soigne quand même. Il y a des barbes, on se demande mais comment il fait celui-là pour manger sa soupe avec une barbe comme ça. Voyez, et il faut faire attention à tout cela. Lorsqu'on est en couple, on devrait toujours se rappeler qu'entretenir son corps, c'est bon autant pour se maintenir en bonne santé que pour épicer, agrémenter la vie conjugale. Autrement, on aura une vie sentimentale fade et incolore. Même l'acte conjugal risque d'être un simple geste mécanique, instinctuel et égocentrique, et non plus un acte hautement responsable et altruiste, censé matérialiser le don total de soi et la communion entre les époux. Une dernière raison que je vous suggère aujourd'hui, la stérilité souvent imputée à la femme. Dans nos milieux culturels, beaucoup de femmes sont sous-estimées et humiliées presque chaque jour, du fait qu'elles n'ont pas eu d'enfants. Sans juger, sans se poser en donneur de leçons, je pense qu'il faut se montrer respectueux et empathique envers les couples, les femmes notamment, se trouvant dans une situation pareille. La fécondité est-elle une condition pour être considérée comme un être humain à part entière? Les enfants sont-ils un droit ou un don gratuit de Dieu? Une dernière question pour aujourd'hui. Comment une crise au sein des couples se manifeste-t-elle? Tout dépend de notre tempérament, mais aussi de l'éducation que nous avons reçue. Mais de manière globale, on peut avoir trois tendances. Première tendance, punir son conjoint en cas d'une situation de crise. On développe alors l'agressivité envers l'autre. Violence, mise en quarantaine. Ici, mise en quarantaine, entendez? On exclut l'autre de son monde, on fait ses choses seules, on ne s'intéresse plus à l'autre, on ne lui adresse pas la parole, on refuse d'assumer ses responsabilités. Excusez-moi, c'est le cas de le dire, même au lit, pour ce qui concerne l'acte conjugal, on ne veut rien entendre, donc on punit. Ou bien on profite du conflit pour réaliser tous ses désirs d'infidélité, car on croit avoir finalement une bonne raison d'aller voir. Il y a des gaillards comme ça. Hein? Ils provoquent un incendie, quand ça brûle, quand ça chauffe, eh bien, cette indifférence, cette méfiance-là qui s'installe, eh bien, lui en profite pour aller voir ailleurs. Comment vous allez les contrôler? Parce que ça fait des jours, vous ne vous téléphonez même pas, donc il est assez libre dans ses mouvements. Deuxième tendance, autopunition inconsciente. Dans ce cas de figure, au lieu d'agresser son conjoint comme dans le cas précédent, on s'agresse soi-même, mais de manière inconsciente. Eh bien, comment ça se manifeste? Cette autopunition s'exprime particulièrement par l'humeur dépressive, c'est-à-dire une tristesse chronique, le repli sur soi-même, la perte de tout intérêt, pas d'appétit, pas de sommeil, l'autodépréciation, bref, le refus inconscient de vivre. Donc, on a été provoqué, on a été irrité, on est secoué, au lieu d'agresser l'autre, on s'agresse soi-même, inconsciemment. Troisième tendance enfin, ce qu'on appelle l'aveuglement psychologique. Il s'agit d'une stratégie inconsciente, rare, mais réelle, qui consiste à combiner deux mécanismes de défense. En l'occurrence, le déni et l'isolement. C'est quoi ça? Eh bien, le déni, c'est le refus inconscient de reconnaître un fait qui dérange, alors que l'isolement consiste à séparer un fait de l'affect, donc de l'émotion que ce fait-là suscite. On connaît un fait, mais on ne se permet pas de sentir l'émotion liée à ce fait-là. On a des témoignages de personnes qui auraient découvert une situation d'infidélité grave de leur conjoint, mais qui continue de vivre comme si de rien n'était. Des femmes tourmentées par leur belle-mère, leur mari, n'est-ce pas, leur belle-sœur, mais qui se comportent comme si de rien n'était. Bref, on a été déshonoré, on a été bousculé, on a été agressé, mais au lieu de se laisser s'exprimer sa colère, son dégoût, sa tristesse, on reste tranquille comme si tout allait très bien. Ce qu'il faut savoir est que l'aveuglement psychologique n'est pas du tout un bon signe de santé mentale. Eh bien, chers auditeurs, voilà donc certaines choses, certaines réalités concernant la crise au sein des couples et que nous vous proposons ici pour notre causerie d'aujourd'hui. Dans nos prochaines causeries, nous allons tenter de répondre essentiellement aux questions suivantes. Quelles sont les crises relatives aux différentes tranches d'âge, de l'âge adulte, pouvant se répercuter sur notre vie de couple? Et comment nous y prendre pour notre croissance psycho-affective ainsi que pour l'épanouissement de notre vie de couple et partant de notre famille, de notre société? Nous vous remercions.
Merci, Papa André et Tandala. Déroc, nous balance un chant avant d'ouvrir notre ligne téléphonique. Merci à Déroc pour ses chants 081 99 66 098. C'est le numéro par lequel vous allez donc nous envoyer vos préoccupations concernant les thèmes des séjours, la crise dans la vie du couple comme opportunité de croissance. Alors, on va commencer par quelques messages que j'ai archivés, Papa André. Celui d'Audrey depuis Lubumbashi. Bonjour, Maman Régine. Bonjour, Papa André. Mon père est parti dans un autre pays avant ma naissance et n'a jamais cherché à entrer en contact avec moi. Il y a 4 ans, je l'ai retrouvé grâce aux réseaux sociaux, mais son attitude à mon égard reste distante. C'est toujours à moi de faire les premiers pas, de poser des questions, de m'intéresser à sa vie sans pour autant avoir des retours. Il ne prend jamais de mes nouvelles, ni s'intéresser à ce qui concerne ma vie, etc. Quelle attitude avoir face à un père qui ne manifeste pas d'intérêt à notre égard?
Merci beaucoup pour ce partage. Moi, j'appelle ça un témoignage plutôt que, même si ça, c'est une question, c'est un témoignage qui peut aller dans le sens de beaucoup de choses qu'on a déjà évoquées dans cette émission. Un père parti et qui ne s'intéresse pas à son fils né après lui. Et c'est toujours le fils qui doit faire le premier. Comment comprendre ça? On peut supposer, tout d'abord, nous voudrions vous exprimer toute notre compassion, notre sympathie, empathie pour ça. C'est une situation très difficile. peut-être on peut se poser une question, est-ce que vous avez grandi seul avec votre mère? Vous n'avez pas eu une figure paternelle, un homme qui a assumé le rôle du père à tous les égards, et notamment au niveau de la croissance psycho-affective, ça c'est fondamental. De toute façon, s'il faut se répondre à votre question, moi je dirais c'est dans la mesure du possible. On ne peut pas vous demander l'impossible et on ne peut pas non plus vous demander de donner ce que vous n'avez pas eu. Mais il serait mieux pour vous de cultiver l'empathie, comprendre que votre père, peut-être qu'il lui aussi a été blessé dans son enfance, il a des blessures intérieures, parce qu'on voit mal comment un père vraiment peut oublier son enfant jusqu'à ce point, délaisser son enfant. Donc, il faut cultiver l'empathie, le pardon, la bonne compréhension et prier pour votre père si vous êtes vraiment croyant. Prier pour que Dieu touche son âme et au besoin, faire intervenir un psychologue, la famille, etc. etc. C'est un peu ça.
Bonjour, Papa André. Alors, les papas qui haïssent leur fille qui tombe enceinte et il leur maltraite, de la part de Divin Mombo depuis Matadi.
Ce sont des parents qui sont certes blessés, déçus, mais qui n'ont pas suffisamment compris que une grossesse, même précoce, si on peut ainsi le dire, avant le mariage, même d'une fille mineure, ce ne signifie pas automatiquement, forcément, l'échec de la vie de l'enfant. On a connu des jeunes filles qui sont tombées enceintes et puis sont retournées au banc de l'école et ont réussi leur vie. Il faut comprendre que une enfant, une fille peut se tromper et on n'est pas parent seulement parce que l'enfant comprend, l'enfant se montre obéissant. On est parent surtout lorsque l'enfant devient un problème. Parce que le parent, être parent, c'est donner la vie. Et la vie, on ne la donne pas de façon ponctuelle. J'ai mis au monde, je suis générateur et voilà, géniteur, pardon. Mais je continue d'être parent même après l'adolescence. Je dois soutenir la vie qui est venue au monde aussi grâce à moi. Donc, être parent, c'est assumer ses responsabilités, même dans les moments les plus sombres de la vie de l'enfant.
On va suivre maman Christine Bokongo Changa Changa qui nous a fait un voice.
Bonjour cher papa André. Bonjour maman Régine.
Bonjour maman.
J'ai suivi attentivement, quelle belle émission des crises dans la vie de couple. Papa André, les raisons citées, c'est vrai que vous avez dit qu'il y a toujours possibilité d'élargir. Moi, je trouve ce sont les raisons de base que vous avez citées là. Et je pense qu'il y a toujours un mixage, il y a le mélange des différentes crises qui font qu'il y ait vraiment des véritables crises au sein des couples et le poids de la culture. Ça nous concerne plus. L'Afrique, la RD, Congo. Les femmes en Afrique n'ont pas le courage d'agir parfois sous le poids de la culture. Alors qu'ailleurs, les autres, moi je pense à ce moment-là, c'est teinté d'hypocrisie aussi, permettez-moi de dire comme ça. Et quand je vois l'aveuglement psychologique, c'est vrai, il y a des femmes qui subissent des calvaires, bon, des hommes aussi, mais c'est un peu moins. Et quand vous voyez, on parle de 30 ans de mariage, 20 ans de mariage, 50 ans de mariage. Mais au fond, quand vous pénétrez, vous trouverez que plus on est en train d'agir par rapport à l'aveuglement psychologique. Il y a les gens qui connaissent certaines vérités très profondes, blessantes, mais qui se disent « qu'est-ce que je dois encore faire ?» Voici un petit problème, Papa André. Une personne m'a posé, et ça tombe bien à pic, plus de 4 décennies, ils sont ensemble. Mais tout d'un coup, l'homme ne parle plus, l'homme est tourné vers sa famille. Ce sont des Africains qui vivent à l'extérieur du pays. L'homme est tourné vers sa famille, l'homme appelle ses nièces, ses neveux. Mais quand la femme veut parler, ça se transforme en dispute. Et pourtant, ils ont vécu correctement jusqu'à ces 4 décennies-là. Comment interpréter une telle crise? Merci beaucoup, Papa André. Merci, Maman Régine. Je pense en faire un effort pour être là également les prochaines fois. C'est Maman Christine. Changa changa beaucoup. Bonne journée et bonne émission.
Merci beaucoup à Maman Changa Changa, Bokongo Christine, pour son intervention.
Bonjour Maman, merci pour les sourires et tout. Merci surtout pour votre intervention qui, moi, je trouve, on aurait trop peu de choses à redire parce que c'est juste ce que vous dites, hein, la culture pèse beaucoup. D'autant plus que cette culture, c'est pas seulement les injonctions qui nous viennent de la mère, du père, quand on est supposé être assez autonome dans son propre foyer, mais c'est notre façon même de respirer, de voir le monde. Donc, c'est toutes ces valeurs que nous avons, n'est-ce pas, qu'on nous a inculquées depuis le sein maternel, et nous avons du mal à nous en défaire. Vous avez beau obtenir vos diplômes d'université, etc., etc., mais vous respirez, vous interagissez avec les autres, selon votre culture. Donc la culture est un facteur déterminant de notre personnalité et donc de notre psychisme. Et s'en défaire, ce n'est pas aussi facile. Ce n'est pas évident. Ce qui fait que, qu'est-ce que vous voulez? Les structures sont telles que la femme, très souvent, elle est celle qui a le deux, pas le deux, celle qui j'ai envie de dire une chose assez grave, donc, qui n'a pas droit au chapitre des humains, en quelque sorte. Vous avez compris? Oui. Dites-moi, excusez-moi, à combien de filles demande-t-on la dot qu'on doit demander à l'occasion de leur mariage? Mademoiselle X veut se marier. C'est le père et la tante qui se disent, il faut autant.
Oui.
Même si la fille aime son mari, son fiancé, et que le fiancé n'a pas assez de moyens, c'est que la tante a dit, moi je veux 3 wacks hollandais, voilà, ça doit venir. Mais pourquoi? Parce que, je dis bien, la fille, quelque part, la femme, n'a pas droit à la parole quand il y a chapitre, quand on doit discuter des choses qui la concernent d'ailleurs. Donc le poids de la culture, vraiment, c'est un problème assez sérieux. Après 40 ans de mariage, l'homme change comme ça, comme une carpe, dit tout ça vient d'où, comment expliquer ça? Bon, chaque couple a une histoire, il faut lire, comprendre l'histoire de ce monsieur-là, mais aussi l'histoire de leur couple. Mmh. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de non-dits, beaucoup de tues, beaucoup de choses qu'on a tues. Mmh. Et à un moment donné, comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. Donc, il y a des gens qui font leur adolescence à 50 ans. Pourquoi? Parce que quand ils devaient faire l'adolescence, ils n'ont pas pu le faire. Il y a des gens qui apprennent à mentir, excusez-moi, des hommes qui apprennent à mentir à leur femme à 70 ans. Pourquoi? Parce que quand ils devaient... Merci beaucoup et bonne journée, Maman.
081-99-66-098 et l'émission Voici mon problème. On va aussi écouter Joseph Desmarie.
Bonjour, Maman Régine. Bonjour, cher papa. Et merci beaucoup pour cette très belle émission. Hein. D'abord, je vais avouer que en tant que célibataire endurci, je me sens très mal à l'aise d'intervenir sur cette thématique proposée. Entre autres, je cite la crise comme opportunité de croissance dans le couple. Mais avec votre autorisation et avec l'autorisation de Maman Régine, je vais essayer quand même d'intervenir.
Oui, allez-y.
Ma première petite intervention. Que dites-vous de la technique du vieux Ndata Sango? Nous connaissons tous la petite histoire du vieux Ndata Sango. Toutes ces techniques qu'il a utilisées, qui apparemment sont des solutions nécessaires pour non seulement supporter son partenaire à vie, mais aussi le garder le plus longtemps possible à ses côtés jusqu'à sa mort. Que dites-vous des techniques du vieux Ndata Sango dans cette thématique? Ma première petite question. Il y a quelques couples qui, en se mariant, ont refusé de voir la réalité en face. Mais ils ont préféré vivre dans l'illusion des contes de fées. Nous connaissons tous le conte de fées où l'on voit de l'autre côté un prince charmant d'une beauté angélique et d'une perfection divine et sans tache. Et de l'autre côté, Une princesse angélique aux vertus mariales est toujours soumise à son prince charmant. Mais après quelques années en couple, le voile de cette conte de fées tombe et la réalité émerge. Et le couple se rend compte que le prince charmant devient moitié démon, moitié ange, c'est-à-dire mi-démon, mi-ange. Et la femme devient la Karachika qu'on regarde dans le film nigérian. Bref, comment ce couple, au début angélique, doit du coup se heurter à la complexité psychologique et aux ambiguïtés morales, soit du mari, soit de la femme, qui deviennent tous deux des anges déchus et malheureusement qui sont censés continuer à vivre ensemble pour le reste de leur vie dans cet état-là. Comment, cher papa, les inviter à accepter désormais leur imperfection humaine et leur dualité inhérente à chacun d'eux? D'abord, je m'arrête là.
Merci.
Merci, Joseph.
Merci beaucoup, mon cher Joseph. Même si vous êtes célibataire, vous avez participé à une émission censée dédiée aux mariés. Bon, la technique d'Ndata, c'est très bonne question. Est-ce que Ndata Sangou était dans le déni ou dans l'isolement? Très bonne question. Non, Ndata Sangou était dans une manipulation, contre-manipulation. La femme qui ne voulait pas, la jeune fille qui ne voulait pas d'Ndata Sangou, sous l'impulsion de sa mère, eh bien, a voulu manipuler Ndata Sangou. Que, ça veut dire quoi cette manipulation de la femme? Que le refus déclaré vienne du mari. Pour ne pas être prise en défaut, n'est-ce pas? Ndata Sangou, tout sage, tout intelligent qu'il était, il a compris le piège. Il dit non, tu veux me manipuler, moi aussi je vais te manipuler. Alors, il joue donc, on va dire, à l'isolement, au déni, mais il sait ce qu'il fait. Donc, c'est une manipulatrice qui s'est retrouvée en train d'être manipulée. Donc, c'est très bon. Ce qu'on appelle, il faut refuser de tomber dans le jeu psychologique. La deuxième question, la découverte, voici comment j'ai compris votre intervention, frère Joseph de Marie. Quand est-ce qu'il faut découvrir la véritable identité de son conjoint? On le dira jamais assez. N'allez pas vite en besogne, cher monsieur, chère mademoiselle, qui vous préparez à vous marier. Le temps des fiançailles, c'est un temps, on ne peut plus, sacré. Il y a des gens qui se sont déjà fiancés, mais comme des maris. Elle va dormir dans la famille de sa fiancée. Tous les parents le savent. Que diable elle fait là-bas? On va au cinéma, au cabaret, partout. Non, on se permet tout. Donc, on découvre l'identité de son futur conjoint pendant les fiançailles. Et c'est en ce moment-là qu'on doit se faire accompagner. Et par son curé, son pasteur, son imam, et par ses amis, ses parents. Même par un psychologue, il y a des gens qui vont consulter un psychologue pour ce qu'on appelle la connaissance de soi. On va en couple, nous avons un projet de vie, aidez-nous à nous comprendre. Non pas pour nous séparer, pour avoir des raisons de nous séparer, mais des raisons de nous aimer davantage. C'est ça. Donc, après avoir vécu superficiellement pendant les fiançailles, après 6 mois de mariage, vous mettez tout ce que vous voulez, 3 ans de mariage, vous découvrez finalement la vraie identité de votre prince charmant, n'est-ce pas? Bon, ne lui attribuez pas trop la faute, parce que vous aussi, vous y avez joué. Vous avez votre part de réponse. C'est un peu ça. Merci.
Alors, on va continuer à recevoir les questions des auditeurs au 081 99 66 098. Louis nous écrit depuis Saint-Joseph d'Arimathée. Nous sommes dans les diocèses des Kissantou. Bonjour, Papa André et Maman Régine. Merci pour ces thèmes. La croissance dont il est question, est-elle individuelle ou bien celle du couple comme unité?
Très bien, merci. On va y revenir.
On peut recevoir un appel, on va associer.
D'accord.
Voilà. Allô?
Allô, bonjour Maman Régine.
Bonjour Maman.
Bonjour Papa André. Alors, j'aimerais intervenir un tout petit peu par rapport au thème qui est proposé. Je pense que dès le départ, la responsabilité incombe un tout petit peu aux familles. Pourquoi? Parce que la charge du mariage, on a l'impression, avec les coutumes qui sont les nôtres, les coutumes africaines et congolaises en particulier, que la charge du mariage repose sur la femme. En fait, la réalité, c'est que les femmes sont préparées, elles sont éduquées à être des bonnes femmes, mais est-ce qu'on fait le même travail sur les hommes? Parce que après, moi, je me dis qu'il faut pas, il faut pas. C'est peut-être ça aussi le mal de notre siècle, d'avoir toutes ces illusions là que le mariage c'est ceci, que le mariage c'est cela. Il faudrait peut-être transmettre une vision un peu plus réaliste du mariage. Le mariage, en fait, c'est deux personnes qui viennent de deux milieux différents, deux éducations différentes. Déjà que si on va sur le principe, même avec nos frères et sœurs en famille, on a parfois des différends. Qu'on arrive à gérer ces différends-là. Donc, ça ne doit pas être différent de ce qu'on fait dans le mariage. On fait dans le mariage. Aujourd'hui, on est dans une vision un peu égoïste de la vie. Tout le monde veut être, j'ai envie de dire, un peu comme on dit, yanké. Personne ne vient avec l'idée claire que je suis face à quelqu'un qui a ses limites, qui a ses qualités, qui a ceci et qui a cela. Et que je dois être conciliant, que je dois faire ceci, que je dois faire cela, c'est, ça pose un peu problème. Il y a l'éducation. Les hommes, je pense que les hommes n'ont pas suffisamment été préparés à vivre dans le mariage. C'est comme si c'était un contrat social où, en dépit de toutes ses obligations, madame doit faire la cuisine, doit faire ceci, doit faire cela, monsieur doit pourvoir financièrement aux besoins du foyer. Et que, en dehors de ça, bah, c'est juste une vie comme ça, en fait. C'est juste une vie comme ça. En fait, je pense que si on s'éduquait un peu plus, plutôt que d'aller sur les rôles, après, c'est important d'aller sur les rôles des uns et des autres. Je suis tout à fait d'accord que les femmes aient des rôles à jouer, que les hommes aient leur partition à jouer. Mais si on allait sur une vision un peu plus chrétienne de la chose, tu ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. L'amour qui se donne comme don de soi. Je pense qu'on irait déjà sur un peu moins de conflits qui dégénèrent un peu. Voilà ce que j'avais à dire.
Merci beaucoup, madame, pour son appel, son intervention. Papa André Itandala.
Merci beaucoup.
Il y avait une question avant l'intervention.
Ouais, on commence par la question d'avant le coup de fil. Oui. Alors, la croissance dont il est question, est-ce la croissance du couple ou de l'individu? Les deux. Parce que dans la crise, il faut reconnaître ses besoins. J'espère que je ne suis pas en train d'anticiper. Reconnaître ses besoins et ce à quoi, en termes d'âge, ce à quoi on est prédisposé à comprendre et à vivre sur le plan psychologique. Et c'est avec ça aussi, donc une connaissance de soi, une prise de conscience de ses moyens, de ses besoins, de ses capacités, qui va pouvoir nous aider, m'aider moi personnellement, à interagir avec mon conjoint pour le bien de nous deux. Donc, je reconnais mes capacités, je reconnais mes limites, mes besoins psychologiques. Avec ça, je vais interagir, je vais enrichir mon conjoint. Donc, c'est une croissance et de l'individu, et du couple, et donc de la famille. Merci pour cette très bonne question. Alors, l'intervention de madame de tantôt, la dame de tantôt, excusez-moi. Moi, je crois que le temps sont durs pour tout le monde. Les temps sont durs pour tout le monde parce que on est comme coincé entre deux mondes. Le monde, on va dire le monde qui est en train de passer donc à un monde de souvenirs, n'est-ce pas, des nostalgies, ce que faisaient nos parents, et le monde actuel qui est un monde interconnecté, un monde appartenant au village planétaire, on va dire. Oui. Vous avez compris? Oui. Dans l'ancien temps, le mariage, c'est négocié d'abord entre parents, entre les deux familles. Et la fille en particulier était informée. toi, ton fiancé de celui-là, et il devait sauver. Il y a, on peut dire qu'il y avait des choses négatives dans tout, mais il y avait aussi une valeur comme quoi le mariage, ce n'est pas seulement une affaire entre deux individus, c'est une affaire entre deux familles, deux clans, même voire deux tribus. Vous avez compris. Ce qui fait que il fallait à tout prix faire le bon choix. Et faire un effort pour que ce choix-là soit un choix définitif, qu'on n'y revienne pas. Et qu'est-ce qu'on constate actuellement? On est dans ce qu'on appelle une culture où la notion de patience reste à réinventer. Parce que dans le temps, il y avait une période, où on, une saison de maïs, une saison de haricots, on savait attendre. Mmh. Mais actuellement, vous allez dans ce supermarché, les pommes, vous les trouvez du janvier en décembre. Ça veut dire, donc, on n'est plus habitué à attendre, à patienter. Ça, c'est un. Quand je suis au village, j'envoie une lettre à un ami, à un frère qui est en ville. Je dois attendre autant de semaines pour avoir la réponse. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? En temps réel, je parle avec mon frère qui est à 2000 kilomètres. Nous nous voyons, vous avez compris. Ce qui fait que nous ne sommes plus, actuellement, nous ne sommes plus habitués à ces notions-là de patience, de sang, de sacrifice. Mmh. Éduquer un enfant, c'est lui inculquer toutes ces notions. Responsabilité, sens du sacrifice, sens de l'effort, sens d'abnégation, sens de patience, savoir attendre. Vous avez compris? Alors, quand déjà avec votre fiancé, vous ne pouvez pas attendre, il y a qui ont même des philosophies, comment je veux savoir que mon fiancé est capable si je n'ai pas, vous avez compris?
J'ai compris.
Vous ne pouvez pas attendre. Et quand ça va barder après-demain, non, il faut changer, ça ne va pas. Donc, nous sommes dans une époque, une période de l'histoire où beaucoup de choses doivent être dites et réorientées en tout cas. Parce qu'à cette allure, on est en train de perdre la pédale sur beaucoup de fronts.
Alors, il y a un aspect que la dame a aussi marqué sur l'éducation des hommes. C'est vrai qu'on éduque on se met plus à éduquer les femmes au mariage, mais les hommes, c'est comme si, on les forme pas, on les prépare pas tellement au mariage.
Oui, les femmes, merci beaucoup. Les femmes apprennent, en tout cas dans les cultures qui sont les nôtres, les femmes apprennent plus à être responsables que les hommes. Déjà à 8 ans, une fille essaie de faire bien la vaisselle. Elle lave la vaisselle, elle aide maman. À 10 ans, elle peut déjà faire le ménage. Vous avez compris? Elle fait des courses à 12 ans. Alors qu'un garçon, il est encore dans le sable, du sable, en train de jouer aux billes et au ballon. Vous avez compris? Alors, vous avez raison de dire que nous devrions aussi nous intéresser davantage à l'éducation de nos garçons. Éducation dans le sens des responsabilités, comment tenir une maison, comment se prendre les autres, s'occuper des autres. On devrait le faire, ça c'est vrai. Mmh. Elle a tout à fait raison.
Bonjour Papa André, nous sommes en séparation avec ma femme au début, la séparation, nous étions dans une bonne communication, mais 2 ans après la séparation, son téléphone et de sa famille ne passe pas et mon ambition est de savoir l'évolution de mon fils Moïse Akalemi, voilà.
C'est très compliqué. Mmh. On s'est séparés, on n'a plus de nouvelles du fils, c'est ça?
Oui, du fils, même de la belle famille, de son ex, pas de nouvelles.
Il faut passer par d'autres voies, la famille, les amis, on peut même faire intervenir la police, c'est un droit. Avoir les nouvelles, connaître la position, au moins, même géographique de son fils, c'est un devoir, un droit.
Et déjà, donc, géographique, il nous parle de Calémie, donc il sait que son fils est à Calémie.
Ouais, voilà. Donc, s'il fait appel aux autorités compétentes, on peut les. Vraiment, comme on dit à Kinshasa, l'esprit a bien. Voilà. Ce n'est pas pour se bagarrer ou à enfoncer les. Non! C'est pour construire,
c'est rassuré,
voilà,
bien, de l'autre
parce
côté.
Que qu'on l'éveille ou pas, cet enfant a besoin de son père.
Tout à fait.
Et cet enfant risque de faire problème après. Vous m'avez caché mon père, montrez-moi mon père. Il y a des enfants qui font comme ça.
Voilà, on prend cet appel pour terminer. Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour. Oui, c'est Radio Maria.
En tout cas, je suis très ravi de vous suivre ici. Le plateau, là, vous êtes en train de mettre l'émission de l'alliage.
Oui.
Moi, c'est M. André, à partir de Kindou.
Oui.
Alors, je suis vraiment en difficulté de ce problème que vous venez de poser sur la radio. Je suis en relation avec ma chérie il y a un an et deux mois. Quand on était en relation, nous sommes déjà en couple avec elle. Mais arrivé à une année, l'épouse m'a quitté sans problème aucun. Et en plus, je suis allé la suivre. On me dit non, tu dois d'abord terminer tout ce qu'on t'avait demandé. Je me suis agenouillé devant ma belle famille. Et si je prends à payer comme ce que j'ai fait comme règle devant mon épouse, j'ai payé en plus. Ma belle famille n'aime plus que je puisse être à côté de ma chérie. Et l'épouse a pris une décision de dire, je n'aime plus rentrer chez toi, mais je ne sais pas la cause. Tout ce que m'a dit, j'ai fait. M'a dit de créer le bien pour terminer la dose. Alors, quand je me préparais pour aller déposer, on me dit, non, il est venu plus, restez chez vous.
Merci beaucoup à Papa André depuis Kindou pour cet appel. Voilà.
Ce qui complique les choses à ce niveau, si j'ai bien compris, c'est que la famille semble être un peu fourbe et malicieuse. Vous dit jouez à gauche, vous allez à gauche, nous rentrons à droite.
Ouais. Finalement, on dit bon, laissez tomber.
Comme le beau-père de Jacob dans la Bible, cultivez ici autant d'âmes. Alors vous faites quoi? Le problème, c'est que un mariage sans le consentement de la famille, notamment la famille de la jeune fille, c'est compliqué. C'est presque impossible chez nous. Alors vous êtes tombé sur une famille qui vous complique la vie. Vous faites quoi? Essayez de dialoguer, endoctriner, si je peux utiliser ce mot de façon très positive, votre chérie, comme vous l'avez dit, qu'elle essaie d'amadouer ses parents. Qu'elle fasse comprendre aux parents que... finalement, c'est l'homme que j'aime et que je dois faire ma vie avec. Sinon, c'est compliqué. Parlez avec votre curé, tenez conseil. Si vous êtes croyant, priez beaucoup. Peut-être que Dieu peut toucher leur cœur. Mais moi, ce que je peux vous dire, en tout cas, n'allez pas en guerre contre la famille de votre femme. Non, priez et cherchez. Attendez, patientez.
Merci.
Comme vous êtes, laissez-moi vous donner un petit conseil d'ami, mon cher homonyme. Ne tombez pas dans le piège que font certains jeunes gens. Si les parents, si les parents s'entêtent, je sais comment prendre Nzela Mukuse, le raccourci. La fille tombe enceinte et puis non. Ne commencez pas votre vie par des mauvaises paroles, je ne dis pas des paroles de malédiction, mais des colères de la belle famille. Ce n'est pas bon. Cherchez la voie la meilleure selon vos valeurs chrétiennes et que Dieu vous aide.
C'est la fin, Papa André, un dernier mot.
Merci beaucoup à tout le monde. On va revenir avec les questions que nous avons posées à la fin de le petit exposé. On va prochainement parler de crises ou des crises relatives au jeune âge adulte. Comment se manifestent ces crises-là et quel peut être leur impact sur la vie du couple si on est concerné. Merci beaucoup. Pour qui veut continuer l'échange, appelez Papa André. Vous faites le 082 20 029 18. Merci.
Merci beaucoup, Papa André Tandala. Merci à tous les auditeurs et auditrices qui aiment bien cette émission. Les téléphones continuent à sonner, malheureusement. Si vous avez des questions, vous pouvez déjà nous laisser, comme ça on va archiver cela pour prochainement. Merci à vous pour la fidélité. La rediffusion de l'émission sera donc dimanche prochain à 13h, heure de Kinshasa. Et nous y reviendrons aussi le mardi prochain, toujours en rediffusion. Merci et restez-nous fidèles.
Rêve d'un monde, monde nouveau. Aimer la vie,
aimer ensemble,
donner sa vie,
donner ensemble,
choisir la vie,
choisir ensemble,
aimer la vie, toujours donner sa vie pour un monde plus beau. J'ai fait le rêve. Un monde, monde plus beau à faire ensemble. Rêve d'un monde, monde nouveau. Payer de soi,
payer ensemble.
Risquer de soi,
risquer ensemble.
Chercher en soi, payer de soi, toujours risquer de soi pour un monde plus beau. J'ai fait le rêve d'un monde, monde plus beau à faire ensemble. Rêve d'un monde, monde nouveau. Changer nos cœurs,
changer ensemble.
Rester veilleurs, marcher sans peur,
marcher ensemble.
Changer nos cœurs, toujours rester veilleurs pour un monde plus beau. J'ai fait le rêve.